Vous écoutez RTL. Première radio de France. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous les curieux, les malicieux. C'est votre émission jusqu'à 22h sur RTL. Vous allez bien, Thomas ?
Ça va très bien. Salut Sidonie, salut à tous. Au programme, donc jusqu'à 22h, une femme qui aimait le luxe, le pouvoir et les hommes. Pamela Harriman a fini sa carrière comme ambassadrice des États-Unis à Paris. Avant cela, elle a connu Churchill, Sinatra, Gianni Agnelli, le patron de Fiat, Maurice Druon, l'écrivain, le ministre, un prince indien, un comte anglais et Bill Clinton.
Elle nous en a pas laissé un seul. Et puis, nous plongerons dans les bas-fonds de Moscou avec un Français commandant d'une société de sécurité privée. Son univers, ce sont les armes, les oligarques, les prostituées, la guerre et la mort. On vous racontera l'histoire de ce fils de haut fonctionnaire que rien ne destinait à un tel destin.
Et tout de suite, on célèbre les derniers.
RTL.
Un dernier blues avant de partir.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai vu juste une dernière danse.
Et si ce soir, on dansait le dernier slow.
Les derniers seront les premiers.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez remarqué, il y a toujours un dernier blues, une dernière danse, un dernier slow. Et les chanteurs l'ont bien compris. À la curiosité, on a décidé de se passionner pour ces derniers. On en fait nos premiers. On s'y passionne. On sait quoi l'expression ?
On se passionne pour le savonnage, ça s'appelle. Le dernier savonnage.
Ça ne peut pas être le dernier
parce qu'on en fait tous les soirs.
Non,
vous
mais
savez,
on
Bruno
s'en passionne, ça pourrait être joli, non ?
Oui, après, ça va être parfait maintenant. Il n'y aura pas un seul savonnage.
Bonsoir, Bruno Léandri. Vous allez
Bonsoir.
Bien. Ça vous
Bienvenue.
Aurait plu, ça, Fluide Glacial, non ?
Ah oui, ça.
Vous avez été longtemps collaborateur de Fluide Glacial. Vous êtes écrivain et humoriste. Mais vous, quand vous faites des vannes, c'est pas malgré vous. Donc ça, c'est bon signe. C'est vrai que dans tous les domaines, on se souvient des premiers et pas des derniers. Pourquoi cette préférence ?
Parce que c'est au moins un sujet où j'étais tranquille. Il n'y avait pas de concurrence, vu que personne s'y intéressait. Et j'étais certain d'être le premier à arriver sur les kiosques des librairies, sur les étalages des librairies, et qu'il n'y aurait personne à côté, parce que les derniers, ça n'intéresse pas grand monde. Pourtant, c'est formidable.
Et oui, ils sont complexes, les derniers. Il y a dernier et dernier. C'est pas pareil.
Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a des listes, ouais, le dernier, des fois ça n'a aucun intérêt, il y a des derniers qui sont chiants comme la mort. Oh, oui, bien sûr, mais par contre, il y en a qui veulent pas être dernier, ils résistent, et puis il y en a qui font pleurer parce qu'on les regrette, et puis il y en a, on est content parce que, le dernier, heureusement, et voilà, donc ça laisse pas indifférent, ça fait monter l'adrénaline, les derniers, alors qu'on pourrait pas le croire à vue de nez comme ça.
En tout cas, vous en avez tiré un livre, Les Derniers, qui est publié, Bruno Léandri, aux éditions Taillandier. Alors évidemment, la liste, elle part dans tous les sens. Donc nous aussi, on va un peu partir dans tous les sens là pendant quelques minutes. On commence avec la dernière sorcière. C'était qui la dernière sorcière ? Peut-être qu'il y en a encore des sorcières, comment on peut dire ça ?
Non, parce que les sorcières, ça a été terrible, c'était un phénomène qui a été général sous le Moyen-Âge. Et puis à un moment, les événements ont changé, la société a changé.
On a arrêté de les persécuter.
Waouh, disons que ça s'est ralenti tout doucement. Ouais. Alors est-ce que c'est vraiment la dernière ? Non, je crois que celle-là, on l'a trouvée en Suisse. Alors des écrits, elle est attestée. Quoi. Ouais. Son supplice a été attesté. Mais peut-être, on pense qu'il y en a eu encore après, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle en Pologne, dans des contrées reculées. Mais enfin, celle-là, on connaît, on sait qui c'est.
On sait quand elle est morte, comment elle s'appelait
Elle s'appelait Anna Goldin, elle était suisse, elle était dans le canton de Genève, et oui, on sait comment, c'est une histoire lamentable, et je crois que les Suisses en ont eux-mêmes un peu honte.
Mais vous voulez pas nous dire comment ça s'est terminé ?
Elle a été suppliciée, c'est ça ?
Alors, non. Elle a été exécutée, mais... Mmh. À l'époque, c'était quand même un petit peu tardif par rapport au bûcher. Et donc, ils ont été un peu gênés aux entournures pour la brûler. Donc, ils ont condamné à mort et à brûler son cadavre après. Parce qu'elle était quand même, elle était reconnue sorcière et accusée de sorcellerie. Donc, on a brûlé son cadavre, mais elle était déjà morte. Donc, c'était sympa quand même.
Ah oui, c'était de la tendresse.
C'était devenu sympa. Oui. Ils étaient mous d'ailleurs.
Oh, l'homme peut être généreux quand même. Hein. Bruno Léandri, vous nous présentez aussi le dernier César. Qui était-il par rapport à Jules César ? Le premier.
Alors, le dernier César, c'est un petit peu théorique, mais en fait, réellement, officiellement, oui, c'est le dernier à avoir été empereur sur le trône de la capitale de l'Empire. Il n'était plus Rome à l'époque, c'était Ravenne. Et c'est lui qui a été destitué par un chef barbare avec un nom très méchant, Odoacre. Alors que lui, il avait un beau nom romain, très, très latin, Romulus Augustule. Ça, c'est un beau nom. Et il a été jeté par ce chef barbare Odoacre, mais qui n'était pas barbare du tout, il était officier dans les armées romaines. Sauf que cet Odoacre, lui, n'a pas dit « je veux être empereur à la place de l'empereur ». Il a dit « non, j'arrête là. Je ne serai pas empereur, je serai général, je serai chef, d'accord. Mais empereur, c'est fini, ce ne sera pas moi. »
Il l'a mis dehors, mais pas pour devenir César.
Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc après, il n'y a plus de types qui se sont prétendus empereurs de l'Empire romain.
Bon, allez, on revient sur nos côtes à nous, là, le dernier gardien de phare.
Alors ça, c'est une belle histoire. Les phares sont devenus... pas inutile, mais disons un petit peu superflu dès l'instant où il y a eu les GPS. Dès l'instant, donc techniquement, ça a évolué et
un peu
désuet,
quoi.
Voilà. Enfin, on les garde encore parce que si jamais il y a des pannes de satellites, vous allez faire comment pour voir les récifs avec votre bateau. Donc on garde les phares, mais ils sont tous automatisés et on peut plus payer des gens à entretenir ces trucs-là. Il y a des équipes qui viennent les réparer. Et donc il y en a quand même un qui est resté jusqu'en 2012 avec des occupants en pleine mer. Je parle d'un phare en pleine mer. Attention, ceux qui sont vraiment isolés, qu'il faut aller ravitailler par bateau, parce que celui-là avait été automatisé en 2006, mais c'est le seul, c'est un truc énorme, c'est un monument, on l'appelle le Versailles des phares, il est au milieu de l'estuaire de la Gironde, devant Bordeaux, et c'est un vrai château.
Oui, c'est un des plus anciens.
C'est énorme, c'est un des plus anciens, et donc ça attire beaucoup de visiteurs. Or, c'est un des rares tellement vaste, parce qu'il est posé sur un rocher où il y a quand même pas mal de terrain en bas, donc il peut recevoir des touristes, donc les bateaux peuvent y accoster, donc on a gardé les gardiens de phare pour accueillir les touristes. Bon, ils entretenaient quand même un peu la mécanique, mais c'était automatisé. Et puis un jour, on a dit, on va arrêter, parce que c'est, même avec les touristes, c'est pas rentable. Et puis on les a gentiment remerciés, on leur a dit, Pôle emploi, c'est pas vrai. Ils sont partis à la retraite, et voilà, une belle histoire qui se termine.
Les gardiens de phare qui ont dû passer de longues soirées avec leur magnétoscope, j'imagine, et leur VHS à patienter, à regarder des bons films.
Exactement.
Quand a été produit ce dernier magnétoscope? Ça aussi, c'est récent.
Alors ça, c'est très récent, ça date de juillet de l'année dernière.
Non.
Et c'est, alors il y a un truc que vous ne croirez pas, c'est incroyable, parce que en juillet 2016, en France, pour avoir un magnétoscope, où il faut être néandertalien, où il faut être sacrément conservateur.
Ou radin,
mais même... bref.
Ou nostalgique au stade maladif.
Et la boîte qui fabriquait les derniers magnétoscopes, donc qui était une boîte japonaise, mais évidemment, ils étaient tous fabriqués en Chine. Cette boîte japonaise en fabriquait encore 700 000 par an.
Qui rembobinait, là, comme on entend.
En 2016. Donc, il y avait... je ne sais pas qui les achetait encore. Mais c'était des millions par an au début des années 2000. Et puis, un jour, ça n'a vraiment plus été rentable. Et puis, il y a un fabricant d'une des pièces du magnétoscope qui a dit « Non, moi, j'arrête parce que vraiment, maintenant, il faut me payer pour que je les fabrique. » Et puis, alors, à partir de là, ils ont dit « Bon, maintenant, c'est plus la peine. » Et ils ont fabriqué le dernier exemplaire de magnétoscope en juillet 2016. Mais je vous prête le mien,
c'est sympa, parce que j'ai l'air tellement triste, là.
Dans un instant, on vous conte l'histoire de la dernière femme exécutée en public et du dernier...
Ça va être sinistre, ça.
Ah oui, c'est moigné, là.
Ils ne se sont pas forcément croisés, ils n'ont sans doute pas non plus dansé sur cette musique que nous propose André Facetta. Tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Il adore ça, le pingouin. Il prend son petit air souverain. Mais je le connais, moi, le pingouin.
Et puis ensuite, ça va très vite. Le temps que l'on vous décapite.
La curiosité est un vilain défaut.
Il était le dernier lien avec la Première Guerre mondiale. Claude Choulès était chargé d'accompagner les blessés qui revenaient de cette guerre. 1 million de Britanniques y ont péri.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On se passionne pour les derniers sur RTL. On va parler dans un instant du dernier bourreau ou de la dernière femme exécutée. Mais d'abord, tiens, on a écouté un extrait de la chanson de Carla Bruni sur le pingouin. Dans votre livre, Bruno Léandri, il y a le dernier pingouin géant d'Europe, c'est ça ?
Le grand pingouin.
Grand
pingouin d'Europe, oui. C'est formidable. On a réussi à le localiser, celui-là, parce qu'il y a plein d'espèces qui disparaissent, mais on ne sait pas quand et comment est mort le dernier spécimen. Oui. Là, on sait. On sait, c'est dans une île près de l'Islande, en 1844. Il restait un couple et il y a des chasseurs qui sont venus le chasser, qui l'ont vendu pour, je crois, 12 euros ou 24 euros, l'équivalent, pour le faire empailler, parce que c'était les collectionneurs qui, et après, il n'y en avait plus du tout. Et on savait que c'était vraiment sa dernière aire de répartition.
Et les chasseurs savaient que c'était le dernier couple?
Non, on ne sait pas.
Il était grand, ce grand pingouin?
Oui, bah, il y en a un spécimen, il y en a 9 naturalisés dans le monde encore, il y en a un au Muséum de Paris.
Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
Il avait un bec magnifique, on aurait dit une sculpture gothique, son bec. C'était très très beau, c'est un bel animal. Ouais.
Et à propos de pingouins, tiens, demain on parlera du dernier film de Luc Jacquet, L'Empereur, c'est la suite de La Marche de l'Empereur. Très très beau film qui nous embarque évidemment en Antarctique.
Ils ont résisté, ceux-là.
Oui, ceux-là, ils ont résisté.
Allez.
Il y en a une qui n'a pas résisté, en revanche, Bruno Léandri, c'est la dernière femme exécutée en public. Nous sommes en quelle année? On va prendre le temps de raconter cette histoire.
Ah, ça, c'est terrible, mais il va y avoir une ambiance un peu glauque dans le studio, je vous préviens tout de suite. Hein. Mais ça se passe en Sologne.
Janvier 1887.
En 1887, exactement, c'était une famille d'agriculteurs, disons, peut-être un petit peu attardés par rapport, disons, à la moyenne. Hein. Ils avaient des enfants, ils étaient très, très pauvres, dans une imagination glauque, les brouillards et tout ça. Et bref, ils avaient chez eux la mère de la femme, qui était très vieille et âgée, et qui était un petit peu gaga. Elle avait fait des avortements, donc elle avait déjà la réputation d'être une sorcière dans la région. Mmh. Et le couple s'est mis dans la tête que leur terrible manque de chance, les récoltes qui pourrissaient, le bétail qui mourait, les enfants qui étaient malades, que c'était elle qui leur jetait des sorts.
La faute de la belle-mère, quoi.
Voilà, et comme ils fréquentaient plus ou moins des sorciers dans le coin, parce que souvent les curés étaient loin et tout, et ils ont dit, c'est une sorcière, la seule façon de s'en débarrasser, on va la brûler. Mais en même temps, ça faisait une bouche de moins à nourrir, puis elle avait quelques petites économies planquées sous son matelas.
Ils vont la brûler où, cette
Alors, ils vont la brûler dans leur cheminée, parce qu'ils n'ont même pas l'imagination de faire un vrai bûcher, et puis c'est terrible devant les yeux des enfants, quoi. Et alors, comme une cheminée, vous imaginez, brûler quelqu'un, c'est pas facile, c'est pas un gigot, donc elle meurt pas tout de suite, elle hurle, donc il appelle ses frères pour l'aider à la tuer, il met du pétrole pour arriver à l'achever, et dans une telle horreur, la femme se prend un doute, et elle va chercher le curé en disant, mais peut-être on a tort, peut-être finalement c'est pas si bien que ça, et puis évidemment le curé appelle les gendarmes, ils sont arrêtés et tout, et il y a un procès. Et
alors, cette femme, elle s'appelle Georgette Thomas, la meurtrière qui est accusée.
Elle est complice avec son mari, et tous les deux sont. Et devant les juges, qui n'en croient pas leurs oreilles, quoi. Une inquisition privée, un bûcher familial, c'est dingue. Mais eux, ils se disent non, c'est pas vrai, elle est tombée d'elle-même et tout. Et le juge interroge les enfants. On est au 19e siècle, pendant le procès. Et la petite dit la vérité, parce que ce monsieur l'impressionne beaucoup, et elle dit la vérité. Et elle dit, voilà, maman, papa, il l'a pris, il l'a poussé. Et alors là, tout le monde est glacé d'effroi devant le récit, et ils sont condamnés à mort. Et à l'époque, c'est marrant, les femmes étaient toutes graciées, toujours systématiquement, depuis le milieu du siècle à peu près. Ouais. Et ça, ce crime était tellement horrible que le président Falguière a refusé de la gracier.
Sauf qu'elle, Georgette Thomas, le jour où elle va, elle monte à la guillotine, c'est le 24 janvier 1887, elle se dit, mais moi aussi on va me gracier jusqu'au dernier moment.
Voilà, bien sûr.
Comment ça se passe?
Alors elle y croit, mais sauf qu'au dernier moment, quand elle voit la guillotine et qu'on l'amène sur la place de Romorantin, où il y a la foule, hein, c'est encore une exécution publique, elle comprend qu'on va la tuer. Et c'est le beau d'Hébler qui la prend, qui l'emmène pour la mettre sur la bascule. Mmh. Et là, elle se débat, elle hurle de telle façon qu'ils s'y mettent à trois pour la mettre sur la lunette. Ils ferment la lunette et là, elle a une force telle qu'elle arrive, au moment où le couperet tombe, à se dégager son cou de la lunette, ce qui est incroyable. Et détail horrible, le couperet rate son cou, il lui coupe la tête en deux au lieu du cou. Et le bourreau d'Hébler, lui-même, qui était quand même un sacré professionnel, il était tellement horrifié par ce détail qu'il a dit, moi, jamais, plus jamais j'exécute une femme, vous demanderez à quelqu'un d'autre, moi, niette.
Et en fait, Georgette Thomas, c'était la dernière femme exécutée en public, c'est ça?
C'est la dernière.
Pourquoi?
Femme exécutée.
Parce qu'il y a une loi qui interdit les exécutions...
Non, c'est simplement qu'après, les exécutions vont devenir... il y a eu beaucoup moins de femmes exécutées, et puis après, les exécutions ne seront plus en public. République. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il y a une tradition de la Troisième République qui a continué d'épargner les femmes, mais c'est revenu avec Pétain, et les dernières femmes guillotinées l'ont été dans les cours des prisons en privé.
Pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors il y en a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais après la Quatrième République n'a pas repris cette galante tradition, si je puis dire. Et sous la Quatrième République, il y a encore eu des femmes guillotinées. Et la dernière s'appelait Madame Leloy. Elle avait massacré son mari à coups de hache.
Et elle a été.
C'était pas une bonne idée, d'accord, mais.
Oui. Elle a été guillotinée en avril 49, c'est ce que j'ai lu dans votre livre.
Dernière femme guillotinée, ouais. Mais pas en public.
Les derniers, c'est publié aux éditions Taillandier. Allez, on continue de se passionner pour ces derniers. L'histoire d'un malchanceux, c'est pas très gay non plus, le dernier mort de la guerre 14-18. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Les derniers sont nos premiers dans la curiosité sur RTL. On vous raconte des destins forts, les destins de ceux qui ont été le dernier exécuté, le dernier gardien de phare, la dernière sorcière ou encore le dernier mort en 1918. Bruno Léandry, comment s'appelle cet homme? C'est le dernier à tomber pour la France. On est en 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale.
Il s'appelle Augustin Trébuchon et c'est une histoire pathétique.
Dans le sens triste.
Oui, dans le sens absurde, dans le sens horrible, d'absurdité, de bêtise, et je parle poliment.
Oui. Alors on se situe, on est où? On est sur quel
Alors on est le 10 novembre, le 9 novembre exactement, 1918, ouais. Et les pourparlers sont entamés déjà avec les Allemands, c'est-à-dire on sait que la paix va venir, quoi. Et évidemment les nouvelles parcourent très vite les fronts, et on sait que bientôt ça va être fini enfin. Mais les consignes de l'état-major c'est de maintenir la pression quand même jusqu'au bout sur les Allemands pour pas qu'ils traînent dans les négociations et tout. Donc on commande pas d'offensive, on dit maintenez la pression sur le front, c'est tout, quoi. Ouais. Sauf que y a des généraux qui font du zèle dans là-haut, alors que tous les généraux, toutes les divisions savent que bon, allez, ça va bientôt finir, c'est peut-être pas la peine
à 24 ou 48 heures près, quoi.
Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter.
Et alors Augustin Trébuchon, un général un peu zélé, c'est ça?
Alors oui, c'est-à-dire que c'est toute une chaîne de commandement, ouais. Qui dit de mettre la pression. On dit non, il faut franchir la Meuse, il faut attaquer les Allemands. L'ordre se transforme et arrive au régiment de ce pauvre Trébuchon qui est là-haut sur la Meuse, et on lui dit il faut franchir la Meuse. Donc ils attaquent le 10 novembre au soir, et le lendemain, le régiment d'Augustin Trébuchon se trouve isolé de l'autre côté de la Meuse, seul avec des Allemands, pas du tout décidés à s'enfuir comme des lapins. Ils sont là, ils résistent, c'est les ordres, et ils leur tirent dessus. Et pendant ce dernier jour de la guerre complet, le 10, il y a 60 morts quand même. Alors que sur tout le front, tout le monde fait profil bas, hein, plus personne ne bouge. Là, il y a 60 types qui tombent le 10, parce que Augustin Trébuchon est le dernier, parce que lui, c'est le lendemain. C'est-à-dire,
oui, c'est ça, c'est le 11
dans la
novembre,
nuit, l'administrie s'est filmée.
À quelques minutes de...
On envoie la nouvelle à tous les régiments, ouais. Attention, à 11h, la guerre est finie. La guerre est finie, mais eux, ils sont coincés toujours sur les obus des Allemands, puisqu'ils ont débordé la Meuse, ils sont isolés. On continue à leur tirer dessus. Attention, à 11h, c'est fini. Et donc, ils se mettent dans leur trou de lapin et ils attendent que ça se passe. Mais sauf qu'à 11h moins le quart, il y a un sous-officier qui donne à Augustin Trébuchon, qui était une estafette, qui avait 40 ans, qui avait fait toute la guerre, qui était passé entre les balles, qui était passé entre les gouttes, et on lui dit va porter un ordre à ton capitaine. Et il est moins 10, c'est-à-dire qu'il lui reste 10 minutes, il faut qu'il se dépêche. Dans 10 minutes, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'ordre, il n'y aura plus de capitaine. Non. Alors il se lève, et puis en face, il y a un Allemand qui regarde sa montre, il dit la guerre, elle n'est pas finie, et paf, il lui tire dessus, et le pauvre Augustin Trébuchon prend une balle dans la tête, il est moins 5. Il est 11h moins 5 et c'est noté par l'officier. Les Allemands tirent encore, et à moins 4, les mitrailleuses se taisent, et à 11h, le clairon sonne. Sauf qu'Augustin Trébuchon est mort.
Et puis on lui a volé sa mort, en quelque sorte, cette date et l'heure de sa mort.
Alors il y a eu un truc bizarre, parce que cette offensive a été tellement lamentable, et puis un peu d'une maladresse pas préparée du tout, c'était vraiment un truc de zèle stupide, que le lendemain, enfin les jours et les années suivantes, l'état-major a été, disons, un peu discret là-dessus.
Oui, il est mort le 10, quoi.
Et alors que le régiment devait participer au défilé de la victoire. On l'a mis de côté, on l'a écarté des fêtes, on a déclaré que tous les morts du 11 novembre étaient datés du 10. C'était mort pour la France, le 10. Donc, Augustin Trébuchon n'est pas mort officiellement le 11 novembre. Il trouvait ça sans doute trop idiot.
Bah évidemment, personne ne pouvait assumer une mort aussi absurde dans une guerre qui avait déjà eu son lot de boucheries et d'absurdités. Ça me rappelle le point de départ d'un roman magnifique de Pierre Lemaitre qui s'appelle Au revoir là-haut, qui avait reçu le Goncourt il y a quelques années. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le
lire. Je l'ai lu grâce à vous d'ailleurs, Thomas. C'est un des plus beaux romans de mon existence.
Voilà, et c'est le même point de départ. C'est le même genre d'histoire pour démarrer
Bruno Léandri.
Voilà, c'est ça. Les derniers, c'est aux éditions Taillandier. Alors, il y a ceux qui s'en sortent in extremis aussi. Tiens, on va raconter une histoire un peu plus positive. Louis-Auguste Siparis, qui est-il ?
Ah oui, alors lui, c'est quand même une vedette touristique, hein, parce que si vous allez visiter la Martinique, si vous allez à Saint-Pierre de la Martinique, là-haut, c'est un truc que vous n'allez pas rater, parce que c'est un monument qu'on fait visiter à tous les touristes, le cachot de Monsieur Siparis dans ce qui reste de la prison de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre a été pulvérisé par une nuée ardente, une coulée pyroclastique, comme on dit en langage scientifique, de la montagne pelée, qui a explosé au-dessus, et tout le monde est mort dans la ville. Le seul le dernier survivant des occupants de la ville.
Et donc aussi des prisonniers, alors.
De tout le monde est mort, et lui, il était dans un cachot, parce qu'il avait tenté de s'évader. Alors bref, il était un truc disciplinaire, il avait été en prison parce qu'il s'était bagarré un soir de soulerie. Donc il était dans son cachot, et c'était un cachot énorme, avec des énormes pierres, avec des toutes petites ouvertures, et alors que la ville a été entièrement balayée, y compris la prison qui était aussi en pierre de taille, mais le cachot qui était comme un bunker, dans le bon sens par rapport à la coulée pyroclastique. Le cachot a résisté. Il a été brûlé sur la moitié du corps parce que les flammes sont à des centaines et centaines de degrés, sont rentrées par le soupirail du cachot. Et il a été brûlé, mais il était vivant. Ils l'ont retrouvé vivant.
Trois jours après
c'était
l'éruption.
Tellement extraordinaire dans ce désert où il y avait plus un humain, il n'y avait plus rien de vivant. Même les bateaux dans la rade ont été brûlés. Tout le monde était mort. Et c'était tellement extraordinaire que le cirque Barnum était au courant, parce que c'était quand même en 1903, un événement qui a couru le monde entier.
Donc un cirque américain
l'a engagé pour qu'il montre les blessures qu'il avait, les brûlures qu'il avait sur la moitié du corps, parce que Barnum montrait des phénomènes comme ça. Ouais. Et il a fait le tour du monde avec le cirque Barnum. Il est devenu célèbre alors que c'était un poivreau oublié dans son cachot juste avant l'éruption.
Avec un surnom, le rescapé de l'enfer.
Oui, il a peut-être croisé d'ailleurs ses frères siamois dont on a parlé il y a quelques jours ici même, qui avaient été aussi embauchés par le cirque Barnum, qui ont donné le nom au fait d'être siamois et qui sont devenus richissimes grâce à leur cachet de vedettes.
Alors que, sauf que la fin de vie de Louis-Auguste Siparis, ça se passe comment ?
Non, le pauvre Siparis, après, on ne sait pas trop en fait. À un moment, il a arrêté son contrat avec Barnum. On pense qu'il est mort quelque part en Amérique centrale, mais on ne sait pas exactement la fin de sa vie. Par contre, son cachot, lui, il persiste toujours, il existe toujours, il est toujours intact, dans le même état.
Bah, il a résisté à l'éruption.
Et tous les touristes de Saint-Pierre peuvent aller encore le visiter avec, vous savez, le petit train touristique là, qu'on trouve partout dans les villes.
Avec votre livre sous le bras, par exemple, Bruno Léandri, les derniers aux éditions Taillandier, et plein d'autres derniers à découvrir dans votre livre. À bientôt, micro de la curiosité.
Merci.
À bientôt, j'espère que ce ne sera pas la dernière.
À bientôt.
Vous écoutez RTL.